Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin, Cédric Fuentes et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro. Prise de son, Elisabeth Miro.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série consacrée aux penseurs du libéralisme. Après les marginalistes du 19e siècle et les ultralibéraux de l'école autrichienne, rassemblés autour de Friedrich Hayek, c'est la figure de Milton Friedman, ce combattant de la liberté intellectuelle, selon les mots de Margaret Thatcher, qui va nous intéresser aujourd'hui. Le fondateur de l'école de Chicago, né à New York en 1912, est sans doute l'un des économistes les plus renommés et les plus controversés. Pourfendeur de l'interventionnisme étatique, ses travaux aux allures de programmes politiques ont exercé une grande influence sur l'économie chilienne sous le régime de Pinochet. Entre 1975 et 1990, les disciples de Friedman, les Chicago Boys, ont fait du Chili un véritable laboratoire du néolibéralisme. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer la pensée de Milton Friedman et interroger le rôle des Chicago Boys au Chili en compagnie de Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe, auteur d'une histoire vivante de la pensée économique parue aux éditions Pearson, en compagnie également de Stéphane Boisard en duplex de Toulouse, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Institut universitaire Jean-François Champollion et auteur d'un ouvrage paru au Brésil aux éditions Alameda, Penser les droites en Amérique latine. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
En 1976, l'année du 200e anniversaire de notre nation, Milton Friedman gagnait le prix Nobel d'économie. 200 ans plus tôt, l'année de la déclaration d'indépendance, Adam Smith publia un livre intitulé « La richesse des nations ». Les États-Unis ont été le premier pays à appliquer les idées d'Adam Smith. Ces idées nous ont apporté la prospérité et la liberté. Dans la liberté du choix, Milton Friedman nous montre comment ces idées peuvent nous aider aujourd'hui.
Jean-Marc Daniel et Stéphane Boisard, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. On entendait Ronald Reagan louer les vertus de la série d'émissions réalisée par Milton Friedman et sa femme, La liberté du choix, émission diffusée en 1980 sur la chaîne PBS. Il faut présenter Milton Friedman à travers ses différentes casquettes, Jean-Marc Daniel, universitaire, rigoureux, polémiste et militant politique.
Oui, je crois qu'il y a, en fait, il y a quatre Milton Friedman. Il y a d'abord le haut fonctionnaire. On oublie qu'il a commencé sa carrière à l'équivalent de l'INSEE. Il a même été en poste à Paris auprès de ce qui allait devenir l'OCDE et qui était l'organisme, l'OECE, qui était l'organisme qui administrait le plan Marshall. Ensuite, il est devenu donc universitaire et en tant qu'universitaire, assez vite, il s'est démarqué de ses collègues en entamant sa troisième carrière, son troisième métier, qui était un métier à la fois de polémiste et de vulgarisateur de l'économie au travers d'un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle Capitalisme et Liberté, qui paraît en 1962 et qui est un livre qui a un succès un peu de scandale parce qu'il critique Kennedy à une époque où Kennedy représente l'Amérique jeune, conquérante, en train de réussir sur le plan politique et économique. Et par-delà ce livre, il y a effectivement une série d'articles dans Newsweek, qui devient chroniqueur à Newsweek, qui est un magazine qui a disparu. Et sur le tard, il va entamer une carrière de chroniqueur à la télévision au travers de ces émissions dont on vient de parler, qui commence en 1980, donc il est relativement âgé. Et puis ensuite, il y a le militant politique, il est membre du Parti républicain, même s'il est là aussi assez déçu, notamment par Nixon. Il soutient Nixon au début.
Mais Nixon ne va pas tellement suivre ses conseils.
Non, Nixon ne suit pas ses conseils, notamment Nixon, pour lutter contre l'inflation, applique une politique des revenus, c'est-à-dire il réunit, l'administration Nixon réunit les syndicats, les représentants du patronat pour essayer de définir des règles d'évolution des salaires et des prix, on bloque les prix et il est remonté contre ça et surtout Nixon va déclarer à la convention du Parti républicain de 1972, en économie nous sommes tous keynésiens, ce qui est pour Milton Friedman l'abomination de la désolation.
Une déclaration de guerre.
Oui, c'est une déclaration de guerre.
Et alors donc vous l'avez dit, c'est cet ouvrage, Capitalisme et Liberté, liberté qui le fait connaître du grand public. Et dans cet ouvrage, il se livre à une critique en règle du New Deal, de l'État-providence. Qu'est-ce qui ressort de cet ouvrage, Jean-Marc Daniel ?
Alors, il se livre à une critique sur deux plans. Sur un plan d'abord, je dirais, de principe. Ce qu'il critique dans le New Deal, ce qu'il critique d'ailleurs dans Kennedy, c'est l'idée que l'État puisse être la solution, que l'État puisse être autre chose qu'une contrainte. Il commence d'ailleurs le livre en disant Kennedy nous a dit ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Il dit mais c'est pas ça le problème, l'Amérique c'est pas mon problème, mon problème c'est mon bien-être à moi. L'Amérique, l'État américain, les États-Unis, c'est un élément de ma vie, c'est un outil dans ma vie, mais c'est pas un objectif en soi. Et donc l'objectif en soi c'est ma liberté et c'est mon bien-être et c'est mon confort à la fois physique, intellectuel et moral. Et donc, il va critiquer effectivement cet aspect, cette approche politique sur le plan des principes, avec cette idée que le véritable élément qui permet de réaliser pour un individu son destin, c'est un état de droit, donc des règles précises qui respectent la liberté, et le marché. Et donc, il dit, d'ailleurs, il y a une formule dans le livre qui est restée célèbre, reprenant l'image du boulanger, du boucher, enfin du commerçant qui achète Adam Smith, il dit, l'avantage du marché, c'est que quand on achète du pain, non seulement c'est l'intérêt du boulanger de nous le vendre, mais en plus, on n'a pas à se demander quelle est la religion de l'agriculteur qui a produit le blé, quelle est son appartenance idéologique. On achète du pain parce qu'il a intérêt à nous produire, à produire du blé, et nous, on a intérêt à l'acheter. Donc le marché, c'est neutre sur le plan politique et c'est un moyen de garantir la liberté. Et alors, à partir de là, il va critiquer effectivement les politiques de relance, les politiques keynésiennes, à partir de deux idées fortes, c'est-à-dire la relance par la consommation, la relance par le budget. Ça échoue toujours parce que les gens ont conscience qu'on est en train de leur mentir, que le revenu, c'est pas l'État qui le fait. Et surtout, il va critiquer le fait que ces politiques débouchent sur l'inflation qui va devenir son ennemi.
Alors justement, l'inflation, c'est notamment à travers ces passages à la télévision ou dans les journaux, vous l'avez dit, Newsweek, The Wall Street Journal, qu'il va effectivement développer ses thèses monétaristes en ciblant un ennemi, l'inflation.
À chaque fois que je parle d'inflation, il me revient à l'esprit l'histoire de cet homme qui décide un jour de profiter des possibilités naissantes de la cryogénisation. Vous savez, c'est ce procédé qui permet de congeler son corps pendant un temps avant d'être amené à la vie. Cet homme, donc, se fait congeler pendant 20 ans. Après avoir bien pris soin de confier ses biens à un banquier pour les faire fructifier. With instructions to do the best he could for him. And 20 years later, after et 20 ans plus tard, il est décongelé avec succès. Naturellement, la première chose qu'il fait, c'est de se précipiter sur son téléphone pour téléphoner à son banquier. Et son banquier lui dit, devinez quoi, vous êtes millionnaire, multimillionnaire même. C'est vrai, répond l'homme. Il est fou de joie. Mais brusquement, l'opératrice téléphonique interrompt la conversation et dit, désolé, mais vos 3 minutes sont écoulées. Ça fera 250 000 dollars, s'il vous plaît. C'est ça, l'inflation. L'inflation est une maladie.
L'inflation est une maladie, voilà ce que déclarait Milton Friedman lors d'une conférence donnée à l'université de San Diego en Californie le 7 novembre 1977. Comment expliquer, Jean-Marc Daniel, le violent rejet de l'inflation chez Friedman et plus largement chez les libéraux ?
Alors, il y a cette idée que l'inflation, c'est d'abord, c'est effectivement une atteinte au pouvoir d'achat. Ça nuit, ça détruit le pouvoir d'achat et ça détruit, au sein du pouvoir d'achat, ça détruit l'épargne. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'on raconte, ce petit exemple, c'est qu'on est multimillionnaire, mais la communication téléphonique coûte 250 000 dollars. Ça veut dire que l'épargne qu'on a mis de côté, elle ne vaut plus rien. Et donc, on détruit toute capacité d'épargne, d'effort, de projection dans le futur au travers de l'inflation. Mais là où Milton Friedman va plus loin, il y a derrière l'inflation, pour lui, un mensonge. Un double mensonge. D'abord, un mensonge qui est lié au fait que les Keynésiens de son époque affirment que l'inflation, c'est un remède contre le chômage. C'est ce qu'on appelle la courbe de Phillips, l'arbitrage de Phillips. Donc, il va théoriser une courbe de Phillips dans laquelle le taux de chômage est indépendant en réalité de l'inflation.
Alors, il dit que dans un premier temps, tout de même, ça marche. Il y a un effet positif sur la production et l'emploi.
Voilà, il y a un petit effet. Puis ensuite, on revient à la situation en T. Et donc, il faut mettre de plus en plus d'inflation pour avoir un effet qui finit par être totalement nul. Et donc, il va être un des premiers à théoriser et à anticiper ce qu'on va appeler la stagflation, c'est-à-dire un accroissement régulier de l'inflation sans avoir la réponse, une véritable baisse du chômage. Et la deuxième chose en termes de mensonges, alors là, il s'appuie d'ailleurs sur un écrivain français, un philosophe franciscain français du XIVe siècle, qui est le conseiller de Charles V, et donc il s'appelle Nicolas Aurès, mais il dit c'est le premier à avoir compris, c'est le premier monétariste, c'est le premier à avoir compris que l'inflation, c'est un détournement de la monnaie au profit du prince, qui grâce à ça, effectivement, se finance pour pas cher, hein, parce que le premier bénéficiaire de l'inflation, c'est celui qui est endetté, et l'agent économique historiquement qui est assez souvent endetté, c'est l'État.
Et donc, c'est pour ça qu'il dit que l'inflation est toujours un phénomène monétaire.
Est un phénomène monétaire qui est utilisé par l'État pour effectivement effacer sa dette, cette accumulation de dettes. Et donc, il dit, Aurès m'avait eu l'intelligence de montrer qu'il y a un intérêt opposé entre l'État qui veut l'inflation, qui veut contrôler la monnaie, et la population, le marchand, qui veut une forme de stabilité des prix. Et il dit, donc je ne suis pas le seul à militer pour cette stabilité des prix, pour ce respect de la monnaie. Historiquement, tous les gens qui ont été proches des préoccupations populaires, il dit Aurès était franciscain, donc il était proche de la population, milite pour la stabilité des prix et la lutte contre l'inflation.
Et ces idées monétaristes vont se diffuser. Aujourd'hui, les grandes banques centrales ont pour priorité d'éviter l'inflation. C'est une mission qui est héritée de Friedman, Jean-Marc Daniel ?
Alors c'est clairement une mission qui est héritée de Friedman, et en particulier c'est une mission qui correspond à cette période de stagflation où l'inflation va être déconsidérée comme outil. Vous avez un sommet qui est un sommet assez célèbre, qui est le sommet de Bonn en 1978, le G7 de Bonn en 1978, où les États-Unis, le président Carter, qui est démocrate, qui est une des bêtes noires de Friedman d'ailleurs, va dire devant l'ensemble du G7, « Inflation is a tool », l'inflation est un outil. Et il revient un an après, toujours au G7 à Tokyo, et donc là Friedman va crier victoire, dit en fait l'inflation c'est pas un outil, l'inflation c'est un problème et on va lutter contre l'inflation avec deux outils pour lutter contre l'inflation, la politique monétaire, et ça Friedman dit c'est le seul véritable outil, et puis un deuxième outil que vont essayer de mettre en place un certain nombre de pays, c'est la politique de concurrence. Alors Friedman est pour, il considère effectivement que le monopole est une atteinte à la liberté, est une atteinte à la capacité créatrice, mais il dit si vous voulez véritablement vous débarrasser de l'inflation, l'outil par excellence c'est la politique monétaire, et Carter va lui rendre une forme de justice en nommant Volcker, qui s'affiche clairement, bien qu'étant proche plutôt du Parti démocrate, comme étant un monétariste assez strict.
Et on va voir qu'en effet, Friedman va remporter la bataille des idées et également sur le sujet de la politique de change. Il s'oppose à Keynes sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il défend l'échange flottant ? Qu'est-ce que ce système est censé permettre, Jean-Marc Daniel ?
Alors, dans l'échange flottant, il voit deux choses. D'abord, le fait qu'au travers d'échanges flottants, alors c'est ce qu'on appelle en économie le triangle des incompatibilités de Mundell, si on a des changes fixes, en fait, le fait de maintenir son change fixe vous rend dépendant des pays avec qui vous avez un change fixe. C'est-à-dire, pour maintenir un change fixe, vous êtes obligé d'observer ce que fait le voisin avec qui vous avez un change fixe. Si le dollar et l'euro ont un change fixe, mais il faut que les deux économies évoluent un peu en parallèle. S'il y a une vraie distorsion entre les deux économies, au bout d'un moment, ce change fixe devient difficile à gérer. Et la seule façon pour garder un change fixe et une politique monétaire, qui est une politique monétaire centrée sur ses propres préoccupations, c'est de s'isoler des autres. Et donc, il dit, il vaut mieux plutôt abandonner le change fixe, rester en contact avec les autres pays, accepter que les autres pays continuent à commercer avec vous.
Et c'est ce qui se passe en 71, ou plus exactement en 73, le flottant de monnaie se généralise.
Se généralise en disant, voilà, grâce à ça, on va pouvoir maintenir la libre circulation des capitaux, et chacun pourra adapter sa politique monétaire à sa situation d'inflation. Parce qu'il est obsédé en 71-73 par le fait que non seulement l'inflation est en train de se généraliser, mais en plus elle ne se fait pas partout au même niveau. C'est-à-dire il y a des pays où il n'y a pas d'inflation, comme l'Allemagne et certains pays européens. Il y a des pays au contraire où l'inflation est en train de s'implanter, comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Et il dit, il faut à ce moment-là, d'une certaine façon, corriger ça par des changes flottants. Là où il va se tromper, à mon avis, c'est qu'il pense que la monnaie étant sur un marché au travers du marché d'échange, mais il va y avoir un prix d'équilibre qui va s'établir. Et donc, au bout d'un certain temps, le système va revenir assez naturellement à des parités relativement stables. Or, le système n'arrête pas de diverger, d'avoir des chocs, des envolées des monnaies et des déficits extérieurs qui, normalement, dans sa vision, n'auraient pas dû apparaître.
Et alors, vous commenciez à en parler tout à l'heure, Jean-Marc Daniel, il y a un autre terrain d'affrontement entre Friedman et les Keynésiens, c'est la politique de relance qui, selon Friedman, ne peut pas avoir d'effet positif durable sur l'économie. Comment est-ce qu'il défend cette position ?
Alors, il défend cette position à partir de l'idée que la politique de relance... À terme, ça consiste à augmenter le revenu des gens, c'est de leur donner davantage de pouvoir d'achat, et donc c'est cette idée, grosso modo, il se moque à un moment donné des slogans des syndicats américains qui disent, et d'ailleurs qui sont repris en France par certains partis de gauche, si vous remplissez les caddies, vous remplissez les usines. Et donc il dit, mais vous pouvez donner de l'argent aux gens, ils sont pas dupes, ils pensent que ça va pas durer éternellement, et donc il est un des premiers à mettre en place ces logiques en anticipation rationnelle, qui vont être poussées jusqu'à leur extrémité par ce qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique. Et donc il dit, en fait, les gens raisonnent en termes de revenus permanents. Donc vous augmentez à court terme leurs revenus dans les années immédiates, ils disent, quelque part plus tard, je vais être obligé de le payer, et donc ça va avoir comme conséquence que ils vont se mettre à épargner, et donc à... Quant aux entreprises, elles aussi, elle va avoir un raisonnement qui consiste à dire c'est pas véritablement durable. Et donc, plutôt que d'augmenter leur capacité de production, elles vont augmenter leur prix. Et donc, la conséquence d'une politique de relance, dit-il, c'est pas de lutter contre le chômage, c'est de générer de l'inflation et des comportements d'épargne, avec le fait que cette épargne, puisqu'il y a de l'inflation, va finir elle-même par être volée.
Il parle aussi de ce délai entre l'action de l'État et ses effets sur l'économie. Ce qu'on voit, Jean-Marc Daniel, c'est que selon Friedman, l'État doit donc intervenir le moins possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va prendre position, par exemple, pour la dépénalisation de la drogue et de la prostitution à la fin de sa vie.
Oui, absolument. À la fin de sa vie, il explique bien que l'État, en créant des règles, des interdictions, va à l'encontre, génère un marché noir. Et en fait, il le dit à deux moments, il insiste sur deux aspects. Il défend par exemple ce qu'on appelle les 10 d'Hollywood, vous savez, les 10 scénaristes, acteurs qui sont sur la liste noire de McCarthy dans les années 50, et donc Donald Trumbo, dont le sort a été raconté récemment par un film. Or, Donald Trumbo va réapparaître sous un pseudonyme. Il dit, vous pouvez essayer d'empêcher quelqu'un sous prétexte qu'il est communiste de créer, mais il finit toujours par créer. Vous pouvez empêcher quelqu'un sous prétexte que c'est contraire à la santé de fumer, mais il va quand même fumer. Vous pouvez essayer d'empêcher des gens de s'adresser, de s'adonner à des activités que vous jugez moralement condamnables, ils finiront par le faire. Alors, plutôt que d'avoir une vision où vous imposez aux gens de façon brutale, de façon contraignante, d'avoir tel ou tel comportement, laissez-les les libres, mais en revanche, sanctionnez ces comportements par la fiscalité, par l'information, et donc il va défendre la dépénalisation de la drogue. Il a une formule très célèbre, il dit, écoutez, à New York, maintenant, plus personne ne tue pour avoir du pain, mais on tue pour avoir de la drogue. Et donc, réagissez à ça.
On a esquissé, Jean-Marc Daniel, les grandes théories de Milton Friedman. C'est évidemment plus complexe. On va rentrer un petit peu dans le détail. Mais en tout cas, ces travaux vont être couronnés en 1976 par un prix Nobel. Mais la cérémonie ne se déroule pas comme prévu.
I now turn to you, Professor Milton Friedman.
Friedman, go home! Friedman, go home! If the children want free aid, go back and minister, say goodbye.
I am very sorry for this incident. It could have been worse.
La cérémonie de remise de prix à Stockholm, interrompue par un manifestant au cri de Friedman, go home. Ça aurait pu être pire, estime le maître de cérémonie. Un extrait du documentaire réalisé par Naomi Klein, La stratégie du choc. Un an auparavant, Friedman s'était rendu au Chili, où les Chicago Boys, formés à l'université de Chicago, tiennent les rênes de l'économie. Et pour bien comprendre les liens entre la pensée de Friedman et le régime de Pinochet, il faut revenir à la naissance des Chicago Boys. Stéphane Boisard, tout débute en 1955. Avec la signature d'un programme de coopération entre l'Université de Chicago et l'Université catholique de Santiago.
Tout à fait, c'est un moment clé, on va dire un moment fondateur, même si dans le passé il y avait déjà eu des tentatives de régulation de l'économie. On pense là à la mission Clang-Zack qui était arrivée en 1900, un peu avant la signature de l'accord, qui était arrivée au Chili pour réformer la banque centrale et rationaliser un peu le fonctionnement de l'économie. Mais disons que là, cet accord va permettre de créer disons, une véritable école de pensée néoclassique au Chili, dans un contexte totalement hostile, on va dire, si l'on part du fait que, finalement, ce qui a été dit par mon collègue dans la première partie de l'émission, cette guerre entre keynésiens et néoclassiques, finalement, se reproduit en Amérique latine avec la tonalité latino-américaine que l'école keynésienne est regroupée au sein de ce qui s'appelle la Commission économique pour l'Amérique latine, qui a été créée, donc un organisme de l'ONU, qui est dépendant de l'ONU, qui a été créé à la fin des années 50 et qui est dirigé par un structuraliste du nom de Raoul Prebisch qui devient un peu le gourou de cette pensée structuraliste. Donc en 55, quand est signé cet accord entre la grande université de Chicago, qui est déjà très reconnue, et l'école d'économie de la catholique, de l'université catholique de Santiago, finalement on a un micro-phénomène qui paraît assez insignifiant dans le contexte général chilien de l'époque.
Mais alors quel est l'objectif des États-Unis, Stéphane Boisard? C'est de créer des alliés dans la lutte contre le communisme, pardon, à la fois en envoyant des économistes américains à Santiago et en recevant des étudiants chiliens à Chicago?
Alors tout à fait, la logique est celle de la guerre froide. À la fin des années déjà 40, les États-Unis s'inquiètent de la montée en puissance de groupes de gauche dans toute l'Amérique latine. Alors on n'est pas encore au moment de la période de crise maximale qui va être 59-62 avec la révolution cubaine, mais il y a déjà des tentatives un peu de limiter les influences, on va dire, progressistes en Amérique latine. Mmh. Donc au Chili, ça se traduit par une loi qui s'appelle la loi maudite, la ley maldita, qui est signée en 47, et le président qui est un radical, qui est à la tête d'un front populaire. Le Chili va connaître le plus long front populaire finalement de toute l'histoire là du monde, on va dire, européen et extra-européen. Puisque c'est de 38 à 52. En 47, le Parti communiste est interdit. Donc, il est évident que pour les secteurs liés au Parti républicain aux États-Unis et pour certains intellectuels identifiés avec une mouvance conservatrice à droite aux États-Unis, il faut aller contrer l'influence des keynésiens, des structuralistes, et notamment de figures aussi connues que celle d'Albert Eichmann, qui est très actif en Amérique latine.
Et en l'occurrence, de retour au Chili, après avoir étudié à l'université de Chicago, ceux qu'on va appeler donc les Chicago Boys vont révolutionner l'enseignement de l'économie à l'université de Santiago et plus largement dans le pays. Stéphane Boisard.
Oui, tout à fait. C'est le principe de l'accord. En fait, l'accord repose sur des bourses offertes à des étudiants chiliens pour aller faire des études de second cycle, troisième cycle. Pour certains, en fait, très peu passeront des thèses réellement. Ils passeront plutôt des MBA et des diplômes inférieurs aux thèses. Et l'idée, c'est que en retour, ils reviennent au Chili pour travailler au sein de l'école d'économie. Et donc là, ils vont mettre en place un cursus complètement différent en appliquant tous les enseignements qu'ils ont reçus à Chicago. Et ils vont... en fait, cette école d'économie est très très petite par rapport à celle de l'autre grande université qui est l'université du Chili à cette époque-là, et puis de la Commission économique pour l'Amérique latine, où se trouve une grande partie des intellectuels, alors qui en plus recevra beaucoup d'intellectuels du reste de l'Amérique latine. Je pense qu'on peut considérer le Chili comme une sorte de mec des intellectuels et des économistes dans les années 60, puisque avec les dictatures qui vont apparaître un peu partout, notamment au Brésil en 64, on va voir arriver énormément d'intellectuels brésiliens, dont le fameux Fernando Henrique Cardoso qui va travailler à la CEPAL. Donc le Chili est vraiment une fourmilière à cette époque-là, et ses étudiants, eux, vont se limiter à leur petite école qu'ils vont, ceci dit, petit à petit, complètement transformer et en faire une école vraiment de pensée néoclassique sur le modèle de ce qu'ils ont appris à Chicago.
Alors, on va faire réagir Jean-Marc Daniel à cet accord entre les deux universités.
Oui, ce que je trouve intéressant de ce qui a été dit, c'est que d'abord le Chili, et là je parle sous le contrôle de mon interlocuteur, mais le Chili est quand même à l'époque un lieu d'expression plus, de liberté plus grande que le reste de l'Amérique latine. Avant le coup d'État de 73, il y a quand même une démocratie qui fonctionne à peu près correctement au Chili. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand l'accord se fait dans les années 50, Friedman est un personnage tout à fait secondaire de cette université de Chicago. C'est le moment où on commence à distinguer au sein des universités américaines entre ce qu'on appelle les universités d'eau douce et les universités d'eau de mer. Donc les universités d'eau douce, c'est Chicago, qui a été portée d'ailleurs vers la théorie néoclassique par Frank Knight, qui est le grand penseur de la génération d'avant, la génération de Friedman, et eux maintiennent le cap néoclassique face effectivement à des universités donc d'eau de mer qui sont la Nouvelle-Angleterre, Boston et puis la Californie. Et donc il y a une sorte de réseau au niveau international qui se fait de l'eau douce, et donc qui existe aussi en Europe, qui existe en Asie, qui existe en Amérique latine, et c'est, ça reste des mouvements qui sont sur le plan intellectuel relativement minoritaires, c'est-à-dire la Société du Mont Pèlerin, les gens comme Jacques Rueff en France, qui défendent, qui attaquent Keynes, sont relativement minoritaires. La dernière remarque que je ferai, c'est que l'Amérique latine, effectivement, est un enjeu considérable pour les États-Unis, d'autant plus que l'échec du blocus de Berlin il y a 70 ans, là, en mai 1949, donne l'impression aux Américains que désormais, le champ de bataille et d'affrontement avec les communistes va être l'Amérique latine et l'Asie. Et donc, en Asie, c'est clair, c'est net, c'est la guerre de Corée. Et là, maintenant, le prochain front, ça va être l'Amérique latine. Et donc, ils prennent d'une certaine façon les devants en essayant de se créer un réseau de gens qui, sur le plan intellectuel, sont plutôt fidèles à leurs idées dans un contexte où, par tradition, le Yankee est assez mal vu des latino-américains.
Vous dites que cette pensée ultra-libérale est assez minoritaire. Elle l'est aussi au début au Chili. On va voir justement comment elle se diffuse peu à peu.
Après être revenu au Chili pour enseigner, on a commencé à être invité ici et là. Les gens voulaient connaître nos opinions. On a donc commencé à donner des cours d'économie à des entrepreneurs, aux directeurs et aux propriétaires des grandes entreprises chiliennes. En fait, ce n'était pas vraiment des cours, mais on leur parlait de l'économie, de comment fonctionnait le marché, du rôle des prix et des investissements. On leur expliquait que le protectionnisme, c'était mal, parce que ça lésait le consommateur et qu'il valait mieux ouvrir le marché, baisser les tarifs douaniers. Finalement, chacun est gagné. On leur apportait des connaissances théoriques et eux nous apprenaient comment fonctionnait l'économie réelle, qui était qui, etc., etc. Et finalement, eh bien, des liens d'amitié ont fini par se tisser entre nous.
On entendait l'économiste chilien Sergio de Castro dans une interview donnée à la revue Coral Victoria le 16 novembre 2015. Sergio de Castro qui deviendra le ministre de l'économie de Pinochet. Les journaux vont aussi jouer un rôle essentiel dans la diffusion des idées ultralibérales dans la société chilienne. Stéphane Boisard.
Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que dit Sergio de Castro est tout à fait réel, c'est-à-dire que finalement, ces économistes sont marginaux, ils participent très peu au débat dans la première moitié des années 60, et c'est la rencontre qu'ils font avec le groupe Edwards, qui est un des principaux groupes, je crois le plus grand groupe chilien de l'époque, économique, qui tient notamment la presse et le fameux Mercurio de Santiago, qui est le grand journal national, en plus de tout un réseau de journaux régionaux. Et donc, le groupe Edwards va inviter ses économistes, il va leur créer un petit centre de recherche. Alors, voilà, la mythologie aujourd'hui des think tanks fait que on veut voir là dans ce petit groupe initial un des premiers think tanks latino-américains qui aurait fonctionné, qui aurait été voilà une espèce de pouponnière d'idées et d'intellectuels. Bon, en réalité, c'est surtout des gens qui vont rentrer travailler pour le Mercurio et qui vont petit à petit s'imposer au sein de ce journal. journal pour devenir les principaux éditeurs économiques du journal. Et ça, à partir déjà de 67-68, on voit ces gens réussir leur percée, disons, et commencer à diffuser dans la société des idées qui avant étaient réservées aux salles de cours.
Et comment expliquer justement que quelqu'un comme Edwards, ce mania de la presse, soutienne ainsi ces idées ultra-libérales qui, encore une fois, sont encore minoritaires à l'époque?
Alors, tout ça tient à une évolution qui est très très importante, en fait, au Chili en particulier, mais dans toute l'Amérique latine en général, qui est que 67, c'est une année de charnière, de tournure, c'est l'année de la mort de Che Guevara en Bolivie, et c'est un moment où les catholiques vont se radicaliser, une partie au moins du monde catholique va se radicaliser sous l'influence de la théologie de la libération, puisqu'il y a un grand congrès qui se réunit à Bogota, à Medellín, pardon, qui va mettre en place en fait une pensée catholique dite de gauche. Cela donne l'implosion du parti au pouvoir, qui est la démocratie chrétienne, d'Eduardo Frei, qui se veut être une sorte de keynésianisme bontain, et puis un peu le pendant de Kennedy, l'Alliance pour le progrès, qui avait été une sorte de plan Marshall pour l'Amérique latine. Le Chili de Frei en a beaucoup bénéficié. Pour revenir à la question d'Edwards, Edwards va appuyer Eduardo Frei en 64, et tout le journal El Mercurio veut voir là un grand leader qui sera à la fois un progressiste et un anti-communiste farouche, donc quelqu'un qui empêchera la diffusion. Or, l'implosion de ce monde catholique fait que, à un moment donné, les options qui se présentent sont plus très très nombreuses. Et il commence déjà à se profiler les élections de 1970, et donc il faut essayer à un moment donné de rassembler les troupes, et c'est le choix du candidat de droite qui s'appelle Jorge Alessandri, qui a été président lui-même de 58 à 64.
Mais Alessandri, justement, qui ne choisit pas de suivre les Chicago Boys, qui choisit la version plus modérée de la politique économique à ce moment-là.
Tout à fait, mais ça, c'est l'autre chose qui est très importante de ces Chicago Boys, c'est de ce que disait Jean-Marc Daniel tout à l'heure, c'est que, de fait, c'est pensé, même au sein, on va dire, des secteurs conservateurs, des droites, ou voire du grand patronat, cette pensée de Chicago est quand même considérée comme très radicale. Donc, les Chicago Boys chiliens, quand ils commencent même au sein du Mercurio à diffuser leur pensée, ils sont considérés comme des radicaux. Et Jorge Alessandri, qui va les intégrer dans son programme de campagne, pour l'écriture et la rédaction du programme de campagne, ne va pas du tout les suivre. Et ces Chicago Boys, comme l'explique Sergio De Castro dans un livre assez célèbre, vont se retirer de la campagne avant même les élections, parce que ils ne partagent pas les points de vue du grand patronat chilien, qui veut toujours de la protection, qui veut toujours un État finalement qui leur garantisse des barrières douanières et puis une certaine disons stabilité économique via des notamment la politique monétaire. Ce que bien sûr ne peuvent pas accepter ces Chicago Boys qui, comme cela a été dit, finalement font de la monnaie la clé de voûte de tout l'édifice économique néoclassique.
Et alors comment ceux qui sont considérés comme des radicaux vont-ils réussir à s'emparer des rênes de l'économie chilienne? On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Allí supe que amar era terrible, llorando por el humo sempiterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron
Francia ni con el vil soldado.
Vous écoutez Santiago de Chile, interprété par Soledad Bravo, et nous poursuivons notre discussion sur l'influence de Milton Friedman et des Chicago Boys sur l'économie chilienne, en compagnie de Stéphane Boisard en duplex de Toulouse et de Jean-Marc Daniel. Alors Salvador Allende est élu au Chili en 1970, et c'est en 1973, alors qu'il entame sa troisième année au pouvoir, que les Chicago Boys rédigent un programme de gouvernement détaillé. Quelle est alors la situation économique du Chili, Stéphane Boisard?
Alors, la situation est passablement dégradée à cette époque-là. Il y a un problème d'inflation qui est terrible. Le gouvernement a du mal à...
1000% pendant les 3 ans de gouvernement d'Allende.
Exactement. C'est le chiffre, bon, un peu qui est symbolique, qui a été retenu. Alors... Bon, déjà, pour revenir sur l'élection de 70, la victoire de Salvador Allende, d'une quelques dizaines de milliers de voix sur son candidat, est un véritable choc pour la droite, qui ne comprend pas, qui était sûr de sa victoire, qui était sûr de gagner. Et la gauche elle-même est surprise finalement de cette victoire. La première année d'Allende est plutôt se déroule plutôt très bien, les indicateurs économiques sont plutôt bons. Et puis, par une suite de séries d'erreurs qui vont être commises par le gouvernement, mais aussi par un blocus qui commence à se mettre en place, parce que Nixon et Kissinger, depuis les États-Unis, disent que ce n'est pas possible qu'on laisse s'installer, par la voie démocratique a fortiori, un gouvernement marxiste en Amérique latine.
Mais du coup, la situation économique redonne de la vigueur aux idées ultralibérales des Chicago Boys, Stéphane Boisard.
Alors, il y a d'abord ce blocus qui se met en place, les avoirs chiliens dans le monde entier sont bloqués, donc toujours là la question de l'œuf et de la poule finalement, est-ce que l'économie chilienne va mal parce que blocus ou parce que il y a des erreurs en interne, je pense que c'est un peu les deux. Bon, ce qui est sûr c'est que la situation est assez catastrophique, or dans les secteurs de droite, la droite est loin d'être uniformément libérale ou ultralibérale, il y a même des secteurs conservateurs, plutôt autoritaires, corporatistes, qui s'opposent fondamentalement au capitalisme et au libéralisme économique. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus. Ce qui est sûr, c'est que certains secteurs commencent vraiment à s'inquiéter de cette socialisation rampante de la société et puis d'une aura dont jouit Salvador Allende dans le monde entier, les leaders européens notamment, tous les grands leaders européens de la social-démocratie, du socialisme font le déplacement à Santiago. Il y a une sorte d'émerveillement finalement devant cette expérience là, premier gouvernement socialiste qui arrive par la voie démocratique au pouvoir.
Et donc la riposte idéologique s'organise.
Tout à fait. Et là, dans certains secteurs de droite, on commence à dire, bon, il va falloir envisager un coup d'État. Et dès 1972, mais surtout a fortiori à partir de mars 73, il y a des élections qui sont censées être décisives, où l'opposition espère bien remporter les élections, qui sont des élections municipales, mais symboliquement prendre le dessus. Or, l'Unité populaire arrive première et gagne des voix par rapport aux élections intermédiaires précédentes.
Donc le parti de Salvador Allende.
Pour certains secteurs de droite, voilà, il n'y a plus d'autre solution que le coup d'État. Il y aura une première tentative en juin qui échouera parce que l'armée est là aussi de loin pas du tout monolithique. Salvador Allende va faire rentrer l'armée dans le gouvernement en 72 après une grande grève qui va paralyser le pays, qui a été largement financée par les États-Unis, comme cela aujourd'hui est prouvé, documenté. Et donc en fait... la difficulté pour ces secteurs de droite putschiste, on va dire, c'est de réussir à être crédible sur le plan économique pour pouvoir proposer une alternative en cas de coup d'État.
Sachant qu'il y a une concurrence à ce moment-là, Stéphane Boisard, entre d'un côté les gradualistes chiliens qui sont assez modérés et les Chicago Boys justement, et après le coup d'État du 11 septembre 1973 qui verra la chute de Salvador Allende et l'arrivée de Pinochet, ce sont plutôt les gradualistes, justement les plus modérés, qui vont avoir les grâces du nouveau du régime militaire.
Tout à fait. Je pense que le constat peut être partagé, c'est-à-dire un constat que la société et l'économie chilienne a été complètement étatisée et qu'il faut revenir à une forme de libéralisme économique. La question va être plus celle du rythme des mesures. Et réellement, le premier ministre de l'économie, bon, il y a un militaire tout d'abord, puis après, ça sera Fernando Lenis, qui est l'ancien directeur de Mercurio et quelqu'un de très influent au sein du groupe Edwards, donc on voit bien l'importance de ce groupe Edwards. Lui n'est pas fondamentalement en désaccord avec ce que disent les Chicago Boys. Il dit juste, bon, il faut aller plus doucement parce que la société peut pas subir un choc frontal. Ce qui va accélérer ces tensions. Alors, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que les Chicago Boys, à cette époque-là, ont une moyenne d'âge de 30 ans, qu'ils sont quand même inconnus du grand public. Les militaires ne les connaissent pas. Et pour les militaires qui ont pris le pouvoir le 11 septembre 73, il y a un vrai risque de confier l'économie à des jeunes d'une trentaine d'années qui n'ont aucune expérience en politique, sont des professeurs qui sont certainement très bons pour faire des cours d'économie, mais qui n'ont pas de d'expérience politique. Donc, finalement, ce qui accélère la prise de décision et qui va être décisif, c'est le fait qu'à partir de 1974, le général Pinochet commence à vraiment s'imposer comme l'homme fort du régime. Et il se fera nommer président de la République en 1975 contre un autre général de la junte qui va devenir son opposant principal et que Pinochet réussira à faire sortir de la junte en 78, qui est le général de l'aviation, le général Lee, le commandant en chef de l'aviation chilienne. Donc il y a une vraie lutte en interne au sein des militaires. Mais 74, c'est les premiers contre-coups du choc pétrolier, c'est
la chute du cours du cuivre.
La chute du cours du cuivre, et là, il faut prendre une décision drastique parce que l'inflation continue à être mirobolante et finalement, les mesures économiques qui ont été mises en place n'ont pas réussi à corriger cette inflation de plusieurs centaines de pourcents par an.
Et c'est dans ce contexte, Stéphane Boisard, que Milton Friedman va faire une visite au Chili.
Cher Monsieur le Président, lorsque nous étions venus, le 21 mars, discuter de la situation économique du Chili, vous m'aviez demandé de vous transmettre mon opinion sur l'économie et la politique du pays. Je réponds donc à votre requête. Mais avant cela, je voudrais vous dire combien ma femme et moi vous sommes reconnaissants pour l'accueil que vous nous avez réservé et pour l'hospitalité dont les Chiliens ont fait preuve pendant toute la durée de notre séjour. Nous nous sommes sentis comme chez nous. Les Chiliens que nous avons pu rencontrer étaient tous conscients des sérieux problèmes auxquels leur pays faisait face et de la difficulté qu'allait représenter leur résolution. Mais tous ont montré leur détermination et leur envie de travailler à un avenir meilleur. L'économie chilienne est confrontée à un double problème, l'inflation et la mauvaise santé du libre-marché. D'une certaine façon, ces deux aspects sont liés. Plus vous développerez l'économie de marché, moins le coût qu'induit l'inflation sera élevé. Mais ils sont également distincts, car renforcer le libre-marché ne mettra pas fin à l'inflation, et mettre fin à l'inflation ne se traduira pas automatiquement par l'advenue d'un marché libre.
Un extrait de la lettre envoyée par Milton Friedman à Pinochet le 21 avril 1975, après sa visite donc. Et la question que l'on se pose, Stéphane Boisard, c'est est-ce que c'est cette visite de Friedman au Chili qui a décidé Pinochet à mettre en œuvre le programme économique des Chicago Boys? Quelle influence de cette visite?
Alors, cette visite est importante. Elle, au Chili, je suis pas sûr qu'elle ait eu finalement tant d'impact. Les militaires ont une maîtrise totale du pays. La répression qui s'abat sur le pays est absolument terrible. Et donc, il y a le parlement est fermé. Tous les moyens les médias d'opposition sont tous supprimés. Les partis politiques vont être supprimés. Enfin, il y a plus aucune barrière à la diffusion finalement de la pensée des économistes de Chicago à partir de 75. En 74, la crise fait qu'il faut prendre des décisions. Milton Friedman vient un peu pour justifier a posteriori, quelque part, les choix qui ont déjà été plus ou moins entérinés lors dans ce qui ça va s'appeler un plan de restructuration nationale, enfin un traitement de choc, comme on l'appelait aussi à l'époque, mais qui a déjà été plus ou moins décidé. Le général Pinochet est obsédé obsédé par l'inflation. Il dit, si Salvador Allende n'a pas réussi, c'est à cause du problème de l'inflation. Donc, il ne faut pas que nous, nous répétions les mêmes erreurs. Donc, Friedman arrive dans ce contexte où, finalement, les choix sont déjà faits. Pinochet est devenu l'homme fort du régime.
C'est ça, et des choix qui permettent aussi à Pinochet de prendre véritablement les rênes du pays, et notamment de s'imposer sur la politique économique.
Exactement. Et je crois que là, il faut aussi comprendre les luttes en interne au sein de l'armée. Pinochet, quand le coup d'État a lieu, c'est un général qui est censé être légaliste et proche de Salvador Allende. C'est Salvador Allende qui le nomme et il va parler de traîtrise dans le cas de Pinochet. Donc Pinochet, finalement, est quelqu'un qu'on regarde un peu avec suspicion pendant ses premières années. C'est comme une énigme un peu. Donc cette alliance objective avec les Chicago Voice et avec ces secteurs liés au groupe Edwards font que il a la solution économique, il a la recette économique, il devient l'homme fort du pays, il s'impose au sein des militaires et de la junte.
Et alors, en quoi consiste ce programme dit de récupération économique qui va être mis en place en 1975 au Chili, et surtout quels vont être ses effets sur l'économie, parce qu'en effet, Pinochet sait qu'il est attendu au tournant sur cette politique économique.
Alors, disons que le programme est assez classique, c'est-à-dire qu'il faut absolument réduire les déficits, réduire drastiquement l'État et son rôle dans l'économie.
Donc il y a toute une série de privatisations qui se mettent en marche.
Exactement, et en provoquant une déflation terrible, une récession terrible, le Chili va connaître des taux de chômage complètement délirants à cette époque-là. Et donc on va renvoyer un grand nombre de fonctionnaires, on va dégraisser l'État. Donc la recette est assez classique à cette époque-là.
Et ça va commencer à fonctionner à partir de 1978, la croissance revient.
Exactement, c'est-à-dire que la cure d'austérité a été tellement tellement violente que finalement il y a un petit retour de la croissance à ce moment-là. Et donc 78 commence une nouvelle étape qui dure jusqu'à la crise, la grande crise de la dette de l'Amérique latine. Alors le Chili va être particulièrement affecté à partir de 80-82. Là, c'est ce qu'on va appeler l'avènement de la société libre, chanté par Frédéric Hayek, qui va faire le déplacement à cette époque-là au Chili aussi pour encenser les Chicago Boys et le général Pinochet. Et donc là, on rentre dans une phase où ça va s'appeler les 7 modernisations, un programme de transformation totale de l'économie par un changement de la législation du travail, par un assouplissement, la privatisation de nombreux secteurs d'économie, et notamment de nombreux secteurs sociaux, la santé, les retraites, qui vont être privatisés. La création d'une bourse qui va permettre d'attirer des capitaux étrangers, disons son amplification, parce qu'elle est créée un petit peu avant, mais voilà, tout ça va permettre en fait de faire rentrer des devises dans le pays et va donner cette impression de miracle, puisqu'on va parler, jusqu'en 80, on va parler d'un miracle économique chilien.
Alors, le miracle chilien, je voudrais demander à Jean-Marc Daniel, comment expliquer le positionnement, par exemple, de Hayek ou encore de Friedman, qui d'un côté présente le libéralisme ou l'ultralibéralisme comme un rempart au totalitarisme et qui, en même temps, loue les vertus d'un libéralisme qui est en train d'être mis en place dans un régime autoritaire.
Oui, je crois qu'il y a, pour comprendre la position de Friedman, puisque c'est lui qui est plutôt au centre du débat, il y a deux choses qui jouent. La première chose, et ça on l'a bien dit, c'est que il faut pas confondre pour lui programme patronal et programme libéral. C'est-à-dire que ce qu'il va reprocher, notamment au monde patronal, c'est d'être par nature protectionniste, et finalement de s'accommoder de l'inflation et de ne pas voir que le véritable enjeu, c'est la concurrence, qui est une contrainte aussi pour le patronat, parce que le patronat, il préférerait avoir des marchés attribués, un confort de monopole, etc. Donc il va bien dire qu'effectivement, l'avantage d'un pouvoir fort dans un contexte d'élitement de l'État, c'est de pouvoir effectivement dépasser la prise de pouvoir par l'oligarchie financière et l'oligarchie économique. Et la deuxième chose, c'est que Friedman est persuadé que la liberté politique et la liberté économique sont inséparables, et que tout pays qui s'engage dans un processus de liberté économique va déboucher vers la liberté politique, et que symétriquement, un pays qui supprime sa liberté politique finit progressivement par supprimer sa liberté économique. C'est les mécanismes de front populaire qui vont supprimer, c'est les mécanismes plutôt des dictatures et qui vont être obligés au bout d'un moment, si elles veulent garder la liberté économique, de céder sur le plan politique.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que c'est tout de même plus facile de mettre en place un programme ultralibéral comme celui de Friedman quand on est dans un régime autoritaire? Est-ce que c'est pas aussi ce que se disent les Chicago Boys, Stéphane Boisard?
Ah, tout à fait. Eux sont des partisans. Donc, lorsque le général Pinochet et la junte prennent le pouvoir en 73, c'est on rendra le pouvoir, mais on n'a pas de délai. On se donne pas de délai. Et les Chicago Boys vont militer très longtemps, le plus longtemps possible, pour le maintien du régime autoritaire qui réprime à tout va la période du terrorisme d'État qu'on appelle, donc qu'on qualifie là cette première période, ce qui va de 73 à 81, avant le moment où une constitution est votée et puis on rentrait dans une phase d'un régime plus constitutionnalisé ou constitutionnaliste. Cette phase-là est absolument terrible. Les Chicago Boys défendent corps et âme la dictature et ils disent de toute façon, il ne faut pas qu'on rende le pouvoir parce qu'on n'a pas fini le travail. Donc pour eux, il est évident que et ils le disent aujourd'hui de manière d'ailleurs tout à fait ouverte quand on les rencontre, quand on discute avec eux, c'est-à-dire que ils disent, mais alors, ils disent même deux choses. Ils disent finalement, s'il n'y avait pas eu Salvador Allende qui avait tout privatisé, qui avait tout nationalisé, bien finalement, on n'aurait pas eu dans les mains toutes les cartes pour rebattre toute l'économie et pour redistribuer tout le pouvoir économique. Et s'il n'y avait pas eu la dictature chilienne, le régime militaire, eh bien, on n'aurait jamais pu mettre en place ces mesures. Ils ne s'engagent pas.
Hein. Ce que vous nous dites, Stéphane Boisard, pose deux questions. De deux choses l'une. Ou alors, on estime que le régime libéral fonctionne particulièrement bien dans un régime autoritaire. Et dans ce cas-là, ça pose la question de est-ce que ça entraîne une décrédibilisation de ces idées, des théories de Friedman? Ou alors, est-ce qu'il faut considérer que ce miracle économique, finalement, n'a pas eu lieu? Finalement, ça n'a pas été un succès aussi important que cela.
Je pense que ça a été un succès, mais encore une fois, je pense que la thèse de Friedman, c'est que le Chili, y compris avant l'unité populaire, était dans ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, un capitalisme de monopole, un capitalisme de protection, et que finalement, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, le passage par l'unité populaire, puis ensuite la dictature, a cassé ce capitalisme de connivence et a fait émerger un capitalisme véritablement de concurrence. Avec cette idée chez Friedman que ce capitalisme de concurrence finira toujours par conduire à la liberté politique. Vous avez dans les derniers textes de Friedman, non pas sur le Chili, mais sur la Chine, il est mort donc en 2006, Friedman, et en 2002, quand il a refait une préface à son livre « Capitalisme et liberté », il dit « Je n'aurai pas le temps de voir la Chine démocratique, mais si on va jusqu'au bout des réformes de Deng Xiaoping, la Chine sera démocratique, ou alors le Parti communiste mettra un frein et renationalisera l'économie, remettra en place un système qui est un système de contraintes, mais si la Chine doit devenir capitaliste, elle sera pas capitaliste d'État, elle sera capitaliste démocratique.
Alors c'est intéressant, effectivement, d'un côté on peut entendre parler de ce miracle chilien et en même temps ce qu'on constate au niveau social, c'est un accroissement considérable de la pauvreté dans le pays au sortir de la dictature en 90, Stéphane Boisard.
Alors, tout à fait. Juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est de fait ça, d'un point de vue théorique, ce que dit Friedman. Dans les faits, par exemple, ce capitalisme de libre concurrence va pas avoir lieu. Les Chicago Boys vont vendre plus de 400 entreprises nationalisées, entre autres donc sous Frey puis sous Allende. Ils vont les vendre à des amis et ils sont aujourd'hui à la tête et leur groupe et leur famille sont aujourd'hui à la tête des plus grandes entreprises chiliennes. Donc on n'est pas rentré dans une concurrence, le mythe de la concurrence libre et parfaite ne s'est pas fait et on a parlé de pillage de l'État chilien par les Chicago Boys et par tous les gens qui étaient liés et de fait, il y aurait pu y avoir, dans un régime réellement démocratique, il y aurait pu y avoir des actions en justice contre ces gens qui ont, se sont servis et se sont répartis le ce qui appartenait avant à l'État, et donc à une sorte de grande corporation. Donc,
Stéphane Boisard, pardon de vous interrompre parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Pourtant, le Chili va inspirer de nombreuses politiques dans les années 80 au cours de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice et notamment les politiques de Reagan et Thatcher. Un dernier mot, peut-être Jean-Marc Daniel, sur cet héritage de Milton Friedman et son influence sur les politiques dans les années 80.
Je crois que dans les années 80, il y a trois éléments qui vont jouer. Premièrement, la conviction de la nécessité des politiques monétaires rigoureuses pour se débarrasser de l'inflation. l'inflation, que l'inflation peut pas être un outil. Le deuxième héritage, c'est l'installation dans le paysage de façon définitive, en tout cas à moyen terme, d'échanges flottants avec des tentatives de les réorganiser. Donc c'est les accords du Louvre de 86-87, mais l'échange flottant sont là. Et puis le troisième élément, je pense, c'est l'idée que, encore une fois, entre le capitalisme de connivence et le capitalisme de concurrence, il y a une sorte de rivalité et que finalement, le capitalisme est plus complexe et plus divers que ce qu'on pouvait penser dans les années 50.
Alors il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire sur la situation économique du Chili. Ce sera l'occasion de faire une autre émission à ce sujet. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Après l'amende de 3 milliards d'euros infligée à Monsanto, vous nous parlez aujourd'hui de l'amende record qui pèse sur le constructeur automobile Volkswagen.
Mais oui, 19,7 milliards d'euros, voici le montant de l'amende que pourrait se voir infliger le constructeur allemand selon les enquêteurs français de la répression des fraudes. Une sanction proportionnelle au préjudice causé par Volkswagen qui a avoué avoir équipé ses véhicules diesel d'un logiciel permettant de fausser les résultats des tests anti-pollution. Si la firme allemande a refusé de transmettre le code source de ce logiciel aux enquêteurs, ces derniers ont néanmoins réussi à prouver que le dispositif de dépollution des véhicules, ce que l'on appelle une vanne EGR, était programmé pour ne fonctionner pleinement que lors des tests d'homologation. Pour le dire autrement, en cas d'usage standard de la voiture, lors de nos trajets quotidiens, les émissions d'oxyde d'azote, un gaz extrêmement polluant, se trouvaient démultipliées par rapport aux phases de test.
Mais Volkswagen est loin d'être le seul constructeur accusé d'avoir manipulé le moteur de ses véhicules diesel.
Effectivement, après PSA, Fiat, Chrysler, c'est le groupe Renault qui est aujourd'hui soupçonné d'avoir, comme ses concurrents, manipulé ses moteurs diesel afin qu'ils émettent moins d'oxyde d'azote lors des tests d'homologation. En octobre 2017, les magistrats instructeurs ont ainsi ordonné une série de tests et de contrôles afin de confirmer la présence de dispositifs frauduleux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été servis au terme de leur enquête. Les experts mandatés par la justice ont confirmé sans l'ombre d'un doute l'existence d'un dispositif permettant de truquer les résultats de dépollution. En clair, la vanne EGR dont nous parlions à l'instant ne fonctionne plus en dessous de certaines températures hivernales ni au-dessus de températures aisément dépassées le reste de l'année. Autrement dit, le dispositif fait en sorte que le système de dépollution soit bien plus efficace lors des tests qu'en conduite réelle. Quant au piège de dioxyde d'azote, le fameux NOx, il ne réalise aucune purge en dessous de 50 km/h. Autant dire que ce système ne sert à rien en ville où les populations sont pourtant les plus exposées au rejet de NOx.
On estime ainsi que les oxydes d'azote et autres particules fines sont à l'origine de près de 50 000 décès prématurés en France chaque année.
Mais oui, on pourrait donc se demander ce qui a poussé les dirigeants de ces entreprises à mettre en œuvre ces stratégies de duperie organisées. Eh bien, il semblerait que la réponse soit on ne peut plus simple pour vendre toujours plus de voitures. Ainsi, comme l'explique un article du Monde consacré au Dieselgate, le problème de ces dispositifs de réduction des émissions de NOx ou oxyde d'azote est qu'ils entraîneraient également une hausse de la consommation des véhicules ainsi qu'une baisse de reprise pour le moteur. Il y avait donc un risque de voir les consommateurs se détourner de ces modèles. Les constructeurs ont donc préféré mentir afin de protéger leurs intérêts. Comme le résume l'économiste Franck Aguerri dans les colonnes d'Alternatives économiques, ces entreprises ont donc pris le risque de perdre des dizaines de milliards d'euros et de ruiner leur réputation pour gagner quelques centaines d'euros par véhicule et grignoter des parts de marché. We'll be right back.
Going to Chicago de Lowell Fulson. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel et Stéphane Boisard de nous avoir éclairés sur la pensée de Milton Friedman et des Chicago Boys. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Toulouse qui ont permis ce duplex, ainsi qu'à YouTube Diego Aclopès à la technique à Paris. Demain, on parlera des héritiers du libéralisme avec Alain Laurent, Gilles Rasco et Gaspard Koenig. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.